Vous avez entendu le psaume 27 de la douce voix d'Elona. Mais vous avez peut-être aussi entendu un vocabulaire un peu guerrier. Ce psaume, après la première lecture, peut dégager deux sentiments un peu contradictoires. Certains diront qu'il est apaisant, qu'il offre de la force et de l'espérance. Laure et Frédéric, c'est ce qui a motivé votre choix. Mais d'autres pourront dire, et voilà, encore une fois, comme beaucoup de psaumes, le langage est guerrier. Rempart, méchant, adversaire, ennemi, succombé, bataille. Et que ce type de vocabulaire, décidément, n'a pas sa place aujourd'hui. En effet, nos oreilles comme nos yeux aspirent à être apaisées. Nous voulons être apaisés dans notre maison, dans notre travail, dans nos communautés. Il est vrai que ce psaume, malgré ce langage un peu guerrier, parvient quand même à nous apporter une certaine paix. C'est un beau paradoxe, tout comme la Bible nous en offre tant et tant. Alors que dire ? Est-ce que ce psaume est plein d'espérance ? Ou bien il nous relate une guerre d'un autre temps ? Comme nous le savons nécessaire pour débroussailler un texte biblique, je vous propose d'aller voir le contexte de ce psaume. Il est attribué au roi David. David est le deuxième roi du peuple d'Israël, successeur de Saül. David a une réputation guerrière. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire de David et Goliath, le petit David qui va terrasser le géant Goliath. Mais David a aussi un autre talent, si je puis dire. Il est poète et musicien. David met en mots et chante ses prières à Dieu. À son époque, environ au Xe siècle avant Jésus-Christ, il était important de défendre son peuple, sa terre, contre les envahisseurs, les ennemis d'à côté qui pourraient nous le prendre. Le peuple d'Israël était minuscule, vraiment minuscule, par rapport à tous les peuples voisins aux alentours. Alors pour David, l'enjeu était grand de le défendre et de le protéger. David partage ici des données politiques, économiques, sociales, qui, pour le croyant de l'époque, faisait partie intégrante de la foi et de la relation à Dieu. Le livre des psaumes est témoin de ces paroles de l'être humain vers Dieu, de la joie, de la reconnaissance, mais aussi de la révolte, du doute et de la tristesse. C'est parce que les psaumes parlent de ces sentiments humains qu'ils peuvent encore nous parler à nous aujourd'hui, croyants de tous les temps. Alors, on pourrait maintenant se demander comment ce psaume aurait pu être écrit par un croyant aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est-ce qui risque de m'envahir ? De qui ai-je peur ? Qui sont mes méchants ? Et mes adversaires ? Dans quelle bataille suis-je engagée ? Alors, en dehors du voisin bruyant, de telle sœur, père ou enfant qui n'en fait qu'à sa tête, ou encore de notre collègue qui veut prendre la première place, nous pouvons aussi facilement penser à un autre type de guerre, celle que je mène contre mes propres ennemis. Au verset 2, Elona a lu « Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer » et littéralement, ce verbe signifie « pour me dévorer la chair ». Qu'est-ce qui aujourd'hui, très concrètement, peut me consumer physiquement dans ma vie ? La maladie ? Le rythme harassant que je mène ? La fatigue ? Une immense tristesse ? Ou encore la peur, la culpabilité, la désespérance. Tout cela peut me dévorer à mon insu. et me déchirer en silence jusqu'à m'ôter mon souffle de vie. Je sais que chacun de nous ici connaît en lui-même un ennemi intérieur, contre qui il mène de longs combats. Alors peut-être, vous pouvez les emmener juste au fond, il y a un petit coin, voilà, parce que... Ou alors peut-être essayer la garderie, hein. Parce que Milan crie à la garderie, donc a priori c'était pas... Mais peut-être qu'avec le petit copain, ça ira mieux. Florine, tu y vas aussi? La grande avec les petits garçons? Non, toi tu veux rester, bon. Alors, vous l'entendez, si on considère ce psaume comme une lutte, une guerre contre nos propres insuffisances, alors il prend de l'ampleur, alors il prend un autre sens. Tout à l'heure, je parlais du début du verset 2. « Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, et David continue, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et qui succombent. » Dans la guerre contre moi-même, qui est parmi toutes la plus difficile, Dieu, dans la confiance qu'il me donne, délie tout ce qui m'enchaîne. Il stoppe mes pensées destructrices pour préserver ma vie. Je vous propose d'écouter les deux versets suivants, 5 et 6, qu'Elona n'a pas lus. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Vous l'entendez ? David poursuit en chantant. En Dieu, il est élevé. Il est placé au sommet du rocher. Littéralement, dans le texte, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Alors, j'entends moi ici tout de suite un écho avec la mort et la résurrection du Christ. Ce Christ qui m'ouvre toujours des possibilités nouvelles, même quand la vie semble me jouer de très mauvais tours. Par sa mort, Jésus me donne la vie. C'est le grand paradoxe de l'Évangile. Je vous disais tout à l'heure que ce psaume était un paradoxe, guerrier et paisible à la fois. Mais les Évangiles le dépassent encore en paradoxe, avec cette annonce incroyable. Les Évangiles nous disent, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu advient. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu advient. C'est une extraordinaire promesse. On n'entend jamais ça dans la vie de tous les jours. Jamais. Paul, l'apôtre Paul, le reprend dans sa lettre aux Corinthiens, dans la deuxième lettre, où il dit, au chapitre 12, versets 9 et 10, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et là, nous entendons le baptême. Cet acte posé par des parents qui donnent leur confiance et leur espérance. C'est un élan qui nous invite un instant à lever la tête de nos vies, de nos soucis, de nos quotidiens qui vont trop vite. C'est un instant qui nous permet de nous aider à rediriger nos priorités, notre vie vers l'essentiel, dans les mains de notre seul Sauveur. En début de semaine, 50 pasteurs de notre région Centre-Alpes-Rhône se sont retrouvés à Grenoble pour échanger autour du thème « Et finalement, croire en Dieu, ça sert à quoi ?» Alors, en bons protestants réformés, la plupart des collègues dont je faisais partie ont répliqué « Mais à rien, bien sûr, ce n'est pas utilitaire de croire en Dieu. » Alors, nous avons quand même joué le jeu. en abordant la question sous des angles sociologiques, théologiques, économiques, spirituels et même théâtrales. À la fin de ces journées, je suis rentrée à Annecy en répondant pour moi à cette question. À quoi ça sert de croire en Dieu ? Eh bien, je le crois. Pour moi, cela me permet de renaître toujours à nouveau. À recevoir cette possibilité infinie dans ma vie de relever la tête et de vivre debout, quoi qu'il puisse m'arriver. Une autre utilité, si je peux m'exprimer ainsi, serait le lien social, fraternel que nous avons les uns avec les autres. Je ne crois pas tout seul. Je n'entends pas ces paroles de résurrection pour ma vie à moi tout seul. Je ne chante pas le Seigneur tout seul. J'ai besoin de l'autre, même si parfois, bien sûr, c'est compliqué d'être avec ces autres qui me dérangent un peu trop. Ce message de vie, d'espérance, vous le portez tous les deux, Laure et Frédéric. Chacun à votre façon, vous le partagez avec vos filles, Elona et Florine, en participant à notre vie ici dans la communauté. Et aujourd'hui encore, vous le partagez en demandant le baptême de Milan. Alors gardez en vos cœurs cette fabuleuse promesse, cette fabuleuse force de vie qui relève en toutes circonstances. Gardez-la et partagez-la encore et encore, à la maison, avec vos proches et pour toute votre vie. C'est un trésor que vous avez reçu, ne le lâchez jamais. Et pour finir, écoutons encore David, que ces mots soient notre prière ce matin. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule chose que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.